France Musique. Musique et moi.
Dominique Vidot.
Priscille Lafitte. France Musique.
Sabine et Mirose Latin ne voulaient pas seulement protéger les enfants poursuivis par la haine et l'horreur. Ils voulaient que ces enfants-là, ceux d'Isieux, soient des citoyens, des enfants de la République. Ils pouvaient être étrangers, ils ne pouvaient pas être étrangers à la République. Lorsque bien des années plus tard, Sabine Zlatin est revenue dans cette maison, elle a voulu qu'elle soit une école de vie. Aujourd'hui, c'est une école de mémoire, une école de transmission, une école où brille une flamme qui est celle de la fraternité, une flamme, celle de la France, une flamme que la France porte partout dans le monde, en souvenir des enfants d'Isieux.
À Isieux, village de l'Ain perdu dans la montagne, vivaient 44 enfants juifs. Leur famille avait fui l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la Russie. D'autres étaient originaires d'Afrique du Nord. Tous croyaient trouver refuge et protection en France. Mais dans la zone occupée à partir de 1942, les pères de certains enfants furent arrêtés et déportés. D'autres parents réfugiés en zone libre furent internés, séparés de leurs fils et de leurs filles. Livrés aux SS par le gouvernement de Vichy, ils furent envoyés au camp d'extermination d'Auschwitz.
La mémoire collective, les arts, la musique en particulier, poursuivent inlassablement le travail de ne jamais oublier la tragédie des enfants d'Isieux, une tragédie marquée par la rafle ordonnée par Klaus Barbie d'arrêter, de déporter les enfants qui avaient trouvé refuge sur ce flanc de montagne entre Lyon et Chambéry sous la protection de Sabine Zlatin. C'était le 6 avril 1944, il y a donc 80 ans. France Musique est au rendez-vous de cette commémoration en étant partenaire de ces journées de la mémoire à Isieux dans l'Ain. Commémoration où la musique tiendra un rôle très important. Bonjour Dominique Vidot.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique et moi. Vous êtes le directeur du musée mémorial de la maison d'Isieux. Pourquoi donc donner une large place à la musique lors de ces commémorations? Quelle est votre idée?
L'idée, c'est que il y a de toute façon un lien très fort et parfois un peu mystérieux entre Izieux et la musique, à travers certains enfants notamment, ou certains parents de nos enfants. Et puis surtout parce que la musique est un vecteur extrêmement puissant de transmission. Et au moment où on voit malheureusement disparaître un à un tous les témoins qui ont vécu cette douloureuse période, la musique, comme d'autres arts bien sûr, mais la musique particulièrement, est un outil de transmission formidable qui permet de faire réfléchir, mais qui permet aussi d'illuminer, qui permet d'éclairer. Et on est très sensible à Izieux à tout ce qui a une vertu pédagogique.
On entendait à l'instant dans votre bouche les mots de François Hollande de 2015. Il y aura évidemment aussi des discours officiels. Qu'est-ce que vous attendez aussi de ces discours-là aujourd'hui en 2024?
Bon, on attend bien sûr la présence d'autorité. On ne sait pas à quel niveau ça se situera. On est sûr d'avoir la ministre de la Culture allemande, par exemple, le 6 avril. Ça, c'est pour nous très très fort parce qu'on est très très liés. Partageant en cela d'ailleurs la pensée de Simone Veil, on est très lié à l'Allemagne et toujours soucieux d'associer à nos commémorations, à nos événements, une présence allemande. Donc si le président de la République actuelle décide de venir, ce serait formidable.
Emmanuel Macron,
bien sûr. Mais alors je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas quel sens il donnera à son discours.
En tout cas, des compositeurs ont déjà contribué à rendre hommage à ces enfants d'Izieux. On vient d'entendre l'opéra oratorio composé par Nguyen Thien Dao, composition pour le Festival d'Avignon, enregistrée avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et la Maîtrise de Radio France, c'était en 1995. Et puis, je vous propose aussi d'entendre une autre forme d'hommage musical, cette fois signée Reinhard May.
Sie waren voller Neugier, sie waren voller Leben, die Kinder, und sie waren 44 an der Zahl. Sie waren genau wie ihr, sie waren wie alle Kinder eben, im Haus in Izieux, hoch überm Rhonetal. Auf der Flucht vor den Deutschen zusammengetrieben, und hinter jedem Namen steht bitteres Leid. Alle sind ganz allein auf der Welt geblieben, aneinander gelehnt in dieser Mörderzeit. Im Jahr 44, der Zeit der fleißigen Schergen, der Spitzel und Häscher zur Menschenjagd bestellt. Hier wird sie keiner suchen, hier oben in den Bergen, die Kinder von Izieux, hier am Ende der Welt.
Die Kinder von Izieux, les enfants d'Izieux, par Reinhard May, autrement connu sous le nom Frédéric May. On entend dans cet hommage exactement ce que vous venez de nous dire, Dominique Vidot, c'est-à-dire de l'importance que les deux cultures allemandes et françaises s'emparent de cette histoire.
Exactement. Et il y a un autre artiste qui a contribué aussi à faire travailler cette mémoire des enfants d'Izieux du côté allemand. C'est un plasticien qui s'appelle Winfried Veit et qui a, à partir des photos que nous conservons des enfants, des 44 enfants arrêtés et déportés, qui a fait de magnifiques portraits au fusain qui sont aujourd'hui exposés à Izieux. Ces artistes, je pense, aussi bien Reinhard May que Winfried, sont des Allemands de cette génération, la génération qui est née en 45, et qui ont toujours considéré qu'ils avaient une dette de mémoire à l'égard de l'attitude de leur père, grand-père, durant la Seconde Guerre mondiale.
Alors, par l'exercice du portrait musical ce matin dans Musique et moi, il s'agira, au travers de vous, Dominique Vidot, et de vos choix musicaux, de se saisir de cette histoire. Une histoire qui débute en mai 1943. Sabine Zlatin s'installe avec un groupe d'enfants juifs dans la colonie d'Izieux, dans l'Ain, et c'est bientôt l'été.
Thank you.
L'été, selon Antonio Vivaldi. Ici Nemanja Radulović au violon avec l'ensemble Double Sens. Dominique Vido, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Sabine Zlatin dont on parle depuis le début de cette émission?
Alors Sabine, c'était une femme originaire de Pologne, née dans une famille juive, très pratiquante. Et elle, c'est la rebelle. Elle étouffe dans le milieu familial, mais aussi dans le contexte d'une Pologne très antisémite. Et elle décide, à 17 ans, de quitter son pays et de partir découvrir le vaste monde. Elle commence par l'Allemagne, puis la Belgique, et elle, finalement, elle atterrit à Nancy. Et à Nancy, elle va rencontrer celui qui deviendra son mari Miron. Tous les deux font des études à Nancy, lui d'agronomie, elle de beaux-arts. Et il s'installe ensuite, après s'être marié en 1928, il s'installe à Landas, près de Lille, où ils vont vivre jusqu'à 1940. Et puis en 1940, comme tant d'autres, on l'a déjà dit, ils vont quitter la zone nord pour se réfugier en zone sud. Ils sont pourtant, ils ont obtenu la nationalité française en 1939, et ils étaient un petit peu moins exposés que les familles juives étrangères, mais néanmoins, ils passent dans la zone sud et vont se fixer près de Montpellier. Et puis, Sabine est une femme extrêmement énergique qui veut agir et elle se met au service d'une organisation de secours, de sauvetage des enfants, qu'on appelle l'OSE, qui est une organisation juive d'origine russe, œuvre de secours aux enfants, qui travaille dans les camps du sud de la France, notamment dans la zone de Perpignan, entre Perpignan et Montpellier, qui travaille donc à améliorer le sort des enfants qui sont internés avec leur famille. Et puis, en 1942, lorsque la menace de la déportation se fait de plus en plus pressante et que on prend conscience que les autorités françaises livrent des adultes d'abord, peut-être des familles entières aux autorités nazies, eh bien, les organisations comme l'OSE essayent de sortir les enfants des camps. Et à ce moment-là, Sabine, qui est assistante sociale de l'OSE, va sortir des dizaines d'enfants des camps de Rivesaltes et d'Agde. Et ces enfants, elle les met à l'abri dans des familles, dans des foyers, dans des sanatoriums. Et elle va d'ailleurs diriger un sanatorium à Palavas-les-Flots. Voilà, ça permet de sauver les enfants alors que les parents sont déportés. Ce qui veut dire que les enfants ont vécu déjà l'internement et ils ont vécu dans des conditions catastrophiques. Les camps d'internement de l'administration de Vichy, c'était vraiment une catastrophe.
Et ils ont perdu des nouvelles de leurs parents.
Donc, du coup, ils sont coupés de leurs parents. Ils n'ont plus aucune nouvelle pour la plupart. Certains conservent un lien avec leurs parents lorsque leurs parents ont une domiciliation officielle qui leur permet de ne pas être en danger, mais la plupart ne peuvent plus communiquer avec leurs parents, effectivement.
Et donc en mai 1943, elle a les clés de cette maison à Izieux.
Exactement. Je passe les détails, mais il se trouve qu'il y a une grande différence à partir de novembre 1942 entre la zone libre à l'ouest du Rhône et la zone libre à l'est du Rhône. Parce que à l'ouest, ce sont les Allemands qui vont arriver, la Wehrmacht, la Gestapo. À l'est du Rhône, ce sont les Italiens. Et c'est la création d'une zone italienne avec dont 10 départements à l'est du Rhône va changer absolument tout. C'est-à-dire que ceux qui ont la chance de pouvoir se fixer dans la zone italienne ont beaucoup plus d'espoir de survie. Et c'est pourquoi Sabine va en quelque sorte déplacer tous les enfants qui restaient sous sa responsabilité dans la zone italienne. Ce sera Izieux. Et ils arrivent pour la première fois dans la grande maison à Izieux le 18 mai 1943.
Le vent dans la plaine, l'un des préludes du premier livre de Claude Debussy, Georges Pludermacher ou Pludermacher, suivant les prononciations, dont les parents étaient présents à la maison d'Izieux en tant qu'éducateurs. Que savez-vous d'eux, Dominique Vidot, précisément ?
Eh bien, effectivement, les parents de Georges Pludermacher étaient à Izieux. Ils y sont restés probablement 4 ou 5 mois. On ne sait pas exactement les dates. Ce dont on est sûr, c'est que Serge Pludermacher, qui était photographe, et Rachel, son épouse, qui était au service de Lozé comme Sabine pour s'occuper des enfants, ont passé un long séjour à Izieux, plusieurs mois, et que en janvier, Rachel étant enceinte
de Georges,
eh bien, ils décident tous deux de quitter la colonie parce que Rachel pressentait que le danger était de plus en plus imminent. Malheureusement, depuis septembre 43, les Italiens avaient quitté la région, les Allemands avaient pris possession de l'ancienne zone italienne, la Gestapo de Lyon, très active à cause de son Obersturmführer Klaus Barbie, était très menaçante. De l'autre côté du Rhône, du côté de la Savoie, il y avait eu une rafle dans les bureaux de l'UGIF à Chambéry, le danger était vraiment de plus en plus proche. Et Serge et Rachel, eh bien, ont profité d'une visite médicale à Chambéry pour ne pas revenir à la colonie, ce qui a sauvé, bien sûr, le couple, et aussi permis à Georges de naître 6 mois plus tard.
Et de devenir le pianiste illustre que l'on sait,
exactement.
Est-ce qu'il y a eu d'autres musiciens dans cette colonie ?
Alors, il y a eu un enfant dont on sait malheureusement peu de choses parce qu'il est mort très très tôt. Il avait 13 ans, c'était Maurice Gerenstein, qui était un des 4 adolescents accueillis à l'internat du collège de Belley, parce que à Izieux, il ne pouvait y avoir que la classe pour le primaire et pas pour les collégiens. Donc, Maurice était allé avec 3 autres adolescents au collège. Et on sait par le directeur du collège qu'il faisait des concerts au piano, improvisés pour ses camarades et ses enseignants, parce qu'il avait hérité du don de son père, qui était un très très grand musicien, Alexandre Gerenstein. Et Maurice a été raflé avec sa petite sœur Liliane, et ils sont morts donc à Auschwitz-Birkenau, à quelques centaines de mètres de l'endroit où leur père, qui avait été déporté lui-même à Birkenau en novembre 43, était dans l'orchestre d'Auschwitz et jouait dans l'orchestre d'Auschwitz. Et quand évidemment le père revient, c'est le seul membre de la famille à revenir. Sa femme a été assassinée à son arrivée, Chandla. Et donc ses 2 enfants sont morts aussi. Et de chagrin, Alexandre décide de quitter la France et d'aller aux États-Unis, où il va avoir une nouvelle vie, une nouvelle carrière de musicien dans les studios hollywoodiens.
France Musique, Musique et moi, Priscille Lafitte.
Les litanies de Jean-Alain, interprétées ici par Jean-Baptiste Robin. Et si on invoque ici la musique de Jean-Alain, c'est parce que dans ces commémorations que vous organisez les 6 et 7 avril, il y aura un concert d'un autre style que du style classique. J'y viens, c'est parce que le saxophoniste Lionel Belmondo, saxophoniste de jazz qu'on connaît bien sur France Musique, s'emparera de pièces de compositeurs emblématiques du milieu du XXe siècle, notamment Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Henri Dutilleux. Et donc, Jean-Alain, frère de Marie-Claire, Alain, organiste lui aussi, compositeur, improvisateur de génie à ses heures, est mort en juin 1940, son histoire propre est liée à la guerre, Dominique Vidot.
Oui, tout à fait. C'est, je fais partie de ceux qui sont morts dans cette campagne de France calamiteuse, et qu'on oublie. Donc, on oublie forcément tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur, comme on dit.
Pour défendre la Loire, exactement. Partie des cadets de Saumur.
Exactement.
En quels termes est-ce que vous avez décidé du programme, d'ailleurs, avec Lionel Belmondo, parce que lui, il va improviser sur ses compositions?
Alors en fait, c'est une histoire très touchante là aussi. Celle qui avait écrit le livret de l'opéra qui avait été créé par Nguyen Thien Dao, Roland Cos. Voilà, Roland Cos s'est tournée vers nous il y a 2 ans pour nous dire qu'elle souhaitait refaire une création avec un musicien et un plasticien sur le même livret, en l'aménageant, en l'étendant un petit peu, en écrivant notamment plus longuement sur la période heureuse qu'a été Izieux pour les enfants qui ont séjourné, les 105 enfants qui sont passés par Izieux. Parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui ont survécu aussi grâce à Izieux. On s'arrête trop, enfin, c'est bien normal, sur ceux qui ont été arrêtés, mais il y a eu aussi ceux qui ont été sauvés. Et Roland Cos souhaitait donc réaménager un peu son texte, mais aussi faire une œuvre qui ne soit pas identique à ce qu'elle avait créé en 1994. Et elle s'est associée donc avec Lionel Belmondo et Gilles Rapaport, plasticien, pour créer un spectacle nouveau, beaucoup plus dans l'improvisation et du côté du jazz, pour être totalement clair, et avec la fougue qu'on connaît du côté de Lionel Belmondo et de son frère. Et ils nous ont fait cette proposition, on y a réfléchi, on a travaillé ensemble pour que les choses se passent au mieux, et Roland a réécrit en partie son texte. C'est une dame aujourd'hui très âgée. Je trouve ça un geste magnifique. En général, on ne touche pas à une œuvre, c'est presque sacré. Et elle a refait en partie son livre pour prendre en compte tout ce que la Maison d'Izieux s'efforce aujourd'hui de porter, c'est-à-dire un message d'espoir aussi, pas seulement un message douloureux, mais bien sûr un message lumineux et d'espoir.
cœur si tendre qui clôt l'enfant et les sortilèges de Ravel. Et c'est Chloé Briot dans le rôle de l'enfant, côté d'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mikko Franck. Un cœur qui concentre à lui tout seul la mélancolie, la légèreté de l'enfance. Est-ce que ce cœur rend justice à l'innocence, à la gravité des enfants d'Isieux?
Oui, je pense que vraiment... On sait qu'il y avait des enfants un peu dissipés, un peu turbulents, comme tous les enfants.
D'ailleurs, sur les photos qui figurent dans votre publication cette année, on voit souvent des enfants qui font des grimaces, qui font des pieds de nez aux photographes. On sent qu'il y a de la vie dans cette maison d'Isieux pendant cette année, entre mai 43 et avril 44.
Bien sûr, oui, beaucoup. On les a même identifiés, les perturbateurs. On sait très bien que le petit Jacques Benguigui, par exemple, ou le petit Goldberg aussi, étaient les clowns de la bande. Et c'est un cœur, oui, qui rend justice, effectivement. Alors moi, il me ramène personnellement à mon enfance, à moi, parce que le lien a été pour moi très très salutaire. J'étais un enfant assez dissipé et c'est mon parrain qui m'avait offert ce disque. Et c'était un dominicain et il avait compris à travers les plaintes de ma mère que j'étais pas très facile comme garçon. Et donc il m'avait dit que chaque fois que tu t'énerveras, tu écouteras ce disque. Et tu verras, ça ira mieux. Et effectivement, je l'ai écouté des dizaines de fois et ça me calmait toujours beaucoup.
Et est-ce que aujourd'hui, en tant que directeur de la Maison d'Isieux, il y a aussi une relation à l'enfance, forcément, qui se fait parce que vous êtes amené à lire ces témoignages, à voir ces photos, il y a forcément une projection de votre part.
Bien sûr, forcément.
C'est les archives que vous voyez.
On baigne tous dans cette atmosphère. Alors, bien sûr, les temps ont changé. On n'a plus l'atmosphère de la colonie de vacances, mais il y a 18 000 enfants qui passent chaque année à Isieux, hein, qui viennent avec leurs enseignants.
Aujourd'hui,
18 000 enfants par an. Des classes de CM2, beaucoup de 3e, évidemment, mais aussi des premières et des étudiants. Et c'est pour nous très, très porteur et toujours très émouvant de transmettre l'histoire des enfants à tous ces enfants qui nous viennent aujourd'hui et qui trouvent très facilement une identification avec l'un, l'autre, parce qu'il y a sur 44 enfants, il y a forcément le visage d'un des enfants qui vous parle. Voilà. Et les enfants lisent les lettres, voient les photos, et ils sont toujours, repartent d'Isieux avec quelque chose de différent.
Oh,
qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que c'est exactement, Dominique Videau? Racontez-nous. C'est un enregistrement, en tout cas, de 1967, du chœur catalan Orfeo Català. Mais quoi exactement?
Alors, c'est le Cant de la Senyera, c'est le chant de la bannière, donc qui a été créé par le fondateur de l'Orfeo Català, qui est le grand chœur, donc né en 1891, par Luis Millet. Et le chant, l'hymne, plus exactement, de l'Orfeo Català, c'est Luis Millet qui l'a créé, précisément, en 1891. C'est un signe de ralliement patriotique très fort pour les Catalans. Il a été longtemps interdit lors de la dictature franquiste, hein, par Franco, parce qu'il, justement, il avait cette connexion avec le nationalisme catalan. Alors c'est pas le grand hymne nationaliste catalan qui est El Segadors, hein, qui est le moissonneur, qui est je dirais l'hymne officiel encore aujourd'hui, hein, de la Catalogne, et là totalement interdit pendant la dictature. Le Cant de la Senyera a été interdit en partie, puis ensuite l'Orfeo a pu le reprendre, puisque finalement il s'agissait de l'hymne du chœur lui-même. Mais c'est quelque chose de très fort, et j'ai eu la chance d'intégrer ce chœur pendant quelques années. Et ce qui était magnifique, ça c'est sur l'usage de la musique. Tout à l'heure, vous m'interrogiez sur pourquoi ça peut être important pour Isieux, parce que moi, j'avais éprouvé en Catalogne, lorsque j'y ai vécu, que quand on faisait un concert avec l'Orfeo Català, et pas seulement au Palais de la Musique Catalane à Barcelone, mais on pouvait aussi aller dans des villages très reculés de montagne, on faisait une messe de Mozart, de Bach, et puis ensuite, il y avait la pause, et ensuite, les chants traditionnels, le Cant de la Senyera, toute la salle se levait à ce moment-là, chantait avec nous. C'est des choses qui sont très fortes, hein, qui sont comme un pont entre la grande musique classique, la haute culture, comme on dit parfois, et puis la musique populaire, la musique de la terre, les chants de la terre. Et ce mélange m'a fasciné. Pour un Français, aujourd'hui, c'est perdu depuis tellement longtemps, les chants de la terre et les chants traditionnels, que c'était vraiment pour moi totalement nouveau de découvrir ça. Et c'est là que j'ai quand même éprouvé la puissance de la musique pour relier les gens, pour relier ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, ceux qui aimeraient participer, mais qui n'ont pas les moyens d'être musiciens eux-mêmes. Mais quand on se lève et qu'on rend hommage à l'hymne de l'Orfeo Català, on devient un acteur du catalanisme. Voilà.
Et donc de la grande histoire.
C'est... Et donc finalement de la grande histoire.
Thank you.
Alors voilà bien une œuvre de commande. Il s'agit de Benjamin Britten, le War Requiem. On entendait le chœur Dies Irae, Dies Illa. Ici le chœur et l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham sous la direction de Simon Rattle avec le chœur d'enfants de la Christchurch Cathedral à Oxford. Il s'agit bien donc d'une œuvre qui résonne avec l'histoire, d'autant que c'est une commande qui avait été passée à Britten en 1962 et plutôt que d'exalter les grandeurs de l'armée britannique, il avait plutôt manifesté son horreur de la guerre, son rejet de la guerre. On entend là le parti pris de Benjamin Britten, c'est toute la difficulté de trouver le ton juste finalement pour une commémoration, Dominique Vidot, selon vous ?
Oui, et c'est surtout, moi ce qui me frappe dans cette œuvre, c'est que on peut lui faire dire ce qu'on veut, mais Benjamin Britten a décidé d'interpréter une histoire à sa façon, en reprenant un des grands classiques, donc le Requiem, qui est une forme musicale évidemment très codée, très codifiée, et il arrive à détourner le sens de l'Ancien Testament, puisque finalement, il met en scène le sacrifice d'Isaac par Abraham, mais cette fois, il n'y a pas d'ange pour arrêter la main d'Abraham. Et Isaac est effectivement sacrifié. C'est une métaphore, évidemment, pour maudire et dénoncer le suicide de l'Europe avec ces deux guerres absurdes du XXe siècle. La première, mais aussi la seconde, bien sûr. Donc ça nous ramène aussi à la tragédie d'Isieux. Et c'est très fort, cette façon qu'il a de modifier un texte sacré et de mettre... de juxtaposer des choses qui, a priori, ne sont pas compatibles. Et c'est vrai que c'est un petit peu dans cet esprit aussi qu'on a décidé, par exemple, les quatre saisons de Vivaldi, cette année, de faire jouer les quatre saisons, mais en adaptant l'œuvre à ce qui s'est passé à Isieux, puisque Isieux, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, mai 43, avril 44, presque un an. Donc le cycle des quatre saisons. Et puis, on a eu l'idée, avec le chef d'orchestre Franck-Emmanuel Comte, chef d'orchestre donc du concert de l'Hôtel Dieu, un ensemble lyonnais, de substituer au sonnet que Vivaldi avait intégré à son œuvre, puisque au début, enfin à l'origine, il y avait un sonnet qui précédait chaque mouvement. C'était des poèmes qui, bien sûr, décrivaient les saisons. Et plutôt que de mettre ces sonnets, qui ne sont d'ailleurs plus jamais remis dans les concerts, je pense, eh bien, on a décidé de mettre des lettres de nos enfants. Il y a beaucoup de lettres qui ont été écrites, qui décrivent le printemps, qui décrivent l'hiver, l'automne, la neige, les jeux, les descentes et les baignades dans le Rhône l'été, la neige et la luge l'hiver. Et Franck-Emmanuel a tout de suite dit que c'était formidable et qu'on allait bien sûr faire ce programme comme ça. Donc les quatre saisons de Vivaldi seront jouées avec les lettres des enfants qui vont introduire les saisons.
Donc, quatre saisons de Vivaldi que nous avons entendues un tout petit peu plus tôt. Et Dominique Vidot, en tant que directeur du musée mémorial de la Maison d'Isieux, vous avez également choisi de mettre au programme de ce concert hommage la 5e symphonie de Mahler.
Thank you.
la cinquième symphonie de Mahler, l'Adagietto, évidemment, ici par Ricardo Chailly à la tête de l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam. Une œuvre qui est au programme des commémorations de la Maison d'Izieux les 6 et 7 avril prochains et que vous présidez, Dominique Videau, en tant que directeur de la Maison d'Izieux dans l'Ain. Il faut trouver le ton pour ce type de commémoration, il faut trouver le rythme. Est-ce que le ton le plus juste est celui du témoignage, finalement ?
Oui, effectivement, c'est quelque chose qui d'ailleurs sera d'actualité lors des commémorations d'avril, puisque nous aurons la présence de au moins 8 anciens enfants d'Izieux. Ce qu'on appelle les anciens enfants d'Izieux sont les enfants passés par Izieux et qui en étaient repartis avant la rafle. Donc on en a eu 8 qui seront là et qui témoigneront lors des commémorations. Comme il y en aura 4, il y aura vraiment la place pour tout le monde. Et ils seront accessibles, les jeunes pourront venir les interviewer, discuter avec eux. Voilà, c'est quelque chose qui est très fort pour nous, la transmission aussi avec les témoins directs, ça c'est fondamental.
Et la lecture de textes dont vous nous parliez plus tôt, qui entrecouperont les 4 saisons, mais pas seulement.
Oui, alors ça, les 4 saisons, c'est un concert qui aura lieu plus tard, en juin, donc pas pendant les commémorations. En revanche, l'Adagietto, lui, sera joué. J'ai tenu à ce qu'il soit joué, parce que finalement, d'abord, Mahler, tout le monde l'identifie très bien avec les Kinder Total Lieder. Ça aurait été formidable, les Kinder Total Lieder, mais c'est une œuvre complexe, difficile d'accès. Et j'ai tout de suite écarté la possibilité de faire intervenir cette œuvre-là. En revanche, l'Adagietto, c'est beaucoup plus facile. Et pour moi, faire intervenir Mahler à la commémoration, c'est vraiment un geste de défi aux nazis. Hein ? Vous n'avez pas réussi à faire disparaître la présence juive en Europe. Vous avez condamné Mahler à l'enfer, comme tous les musiciens que vous disiez dégénérés. Mahler est toujours là, et c'est un des plus grands compositeurs que le XXe siècle nous ait donné. Il sera là pour la commémoration d'Izieux. Et cette œuvre et d'autres seront effectivement interprétées, entrecoupées par des extraits du discours de Gaston Lavoile, qui était le directeur du collège de Belley, qui avait bien connu les enfants, et qu'il aura rendu un vibrant hommage donc à la première journée du souvenir, le 7 avril 1946. Et il y aura donc des extraits de son discours, et puis ces morceaux de musique qui permettront de faire écho à ce discours et aux gens de réfléchir et de méditer sur ce qu'ils auront entendu. Summertime.
La saison de l'été, selon Ella Fitzgerald, avec le T. Carson Trio 1968 à Berlin. C'est pour faire un clin d'œil aussi à ce que vous me disiez plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a eu des jours heureux aussi.
Bien sûr.
À la Maison d'Izieux.
Des jours très heureux même, avec des témoignages des enfants, les lettres qu'ils ont écrites, sous ceux qui avaient encore la chance de pouvoir communiquer avec leur famille, qui témoignent de ce petit paradis qu'a été Izieux, en tout cas jusqu'à septembre 43 et l'arrivée des Allemands dans la zone. C'était vraiment une période presque insouciante. Hein, et c'est l'été dans la voix de Ella Fitzgerald. C'est quelque chose qui se sent, qui vibre. Et je trouve ça formidable. So, hush, little baby. Baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take to the sky. But tears
can harm you with Daddy and Mommy standing. Don't you come.
Merci d'être venu dans Musique et moi en tant que directeur du musée mémorial de la maison d'Izieux dans l'Ain, et à ce titre, vous organisez des commémorations pour les 80 ans de la rafle du 6 avril 1944, concerts, événements les samedis 6 et dimanche 7 avril prochain, mais également le samedi 18 mai et le dimanche 9 juin. Nous y reviendrons sur France Musique puisque nous sommes partenaires de ces événements et nous vous donnerons rendez-vous notamment dans la matinale de France Musique qui fera entendre un reportage lors de ces commémorations. Merci à toute l'équipe qui a œuvré à ce Musique et moi ce matin. Jean-Louis Deloncle à la technique, Claire Lagarde à la réalisation, attaché de production, Maude Nourry. Passez un très bon dimanche sur France Musique et la semaine prochaine, 11h, pour de nouveaux émois musicaux.
À réécouter sur francemusique.fr.